publication. Donc j'ai eu la joie et l'honneur de travailler à la commission historique pour la béatification de Léonie Martin. Et voilà, en fait, ça, j'ai travaillé 7 ans sur elle. On commence à être de vieilles amies toutes les deux. Je vous présente Léonie. Donc Léonie est la troisième enfant des saints époux Louis et Zélie Martin, et donc la grande sœur de Sainte Thérèse. C'est amusant parce que le 8 mai, nous avons eu la joie et la grâce de recevoir un nouveau pape, Léon XIV, et ce 8 mai, c'est la date de naissance du Saint Curé d'Ars et la date de première communion de Sainte Thérèse. Il y a des points communs entre eux qui sont énormes et que Léonie aussi synthétise, parce que Léonie a connu la canonisation du Saint Curé d'Ars qui a eu lieu le 31 mai 1925, le même mois que celui de Sainte Thérèse, puisqu'on a fêté hier les 100 ans de sa canonisation, le 17 mai 1925. Alors vous imaginez ce que c'est pour des frères et sœurs d'apprendre que sa sœur est canonisée. Elle a été canonisée à Rome le 17 mai 1925, comme je vous le disais. Il y a eu 500 000 personnes sur la place Saint-Pierre, qui à l'époque était quand même assez énorme. Et donc elle avait trois sœurs qui étaient au Carmel de Lisieux, et une sœur qui est Léonie. Vous voyez qu'elle n'a pas un habit de carmélite, comme ça ne se voit pas sur Sainte Thérèse, c'est amusant parce que c'est un peu décoloré, c'est marron les habits de carmélite, elle est passée en blanc, c'est bien. Et les habits de visitantine, c'est noir. Et elle, elle était dans son couvent de la Visitation de Caen, et elle rendait grâce, et elle vivait de façon... J'irai transporter en ayant prière la canonisation de sa sœur, et je pense qu'elle réfléchissait aussi beaucoup. Elle aimait beaucoup les papes. Vous savez que dans ses souvenirs personnels, j'ai trouvé les dates de chaque pape. Chaque fois qu'il y avait un nouveau pape, elle notait sa date de naissance, sa date de première communion, sa date d'ordination, toutes ces dates, et elle les apprenait par cœur et elle priait pour le pape aux dates importantes. Ça, c'est quand même merveilleux. Et donc, je reviens à la sainteté de Thérèse. Quand on a commencé à ouvrir le procès de Thérèse, c'était un peu après 1900, il est tellement de grâce que l'Église s'est décidée, un peu obligée de suivre la vox populi et tous les miracles, l'ouragan de gloire, d'ouvrir la béatification de Sainte Thérèse, de Sœur Thérèse. Et une sœur est venue voir Léonie, qui était en train d'étendre le linge dans son monastère, et elle m'a dit, tu sais quoi, ta sœur, eh ben, il y a un procès de canonisation qui va s'ouvrir. Alors elle avait l'accent d'Alençon. Thérèse, une sainte? Oh, elle était bien gentille, mais quand même une sainte. Et ça nous interroge, nous. On se dit, qu'est-ce que c'est que d'être saint? Qu'est-ce que c'est d'être sainte? Parce que même ses parents sont devenus saints. Et malgré tout, on aimerait savoir ce que c'est que d'être saint. Et peut-être que vous avez, en tout cas, j'ai la prétention de me dire, j'aimerais bien être saint. Alors saint, ça ne veut pas dire forcément canonisé, mais ça veut dire aller au ciel, parce que c'est quand même le but de notre vie. Donc ici, je vais vous parler de la sainteté ce matin, de la sainteté d'abord des parents Martin, et puis de la sainteté de Sainte Thérèse, et puis de ce que Léonie a apporté à sa famille. Je vais m'asseoir pour ça parce que sinon je vais partir dans des anecdotes et on reste toute la journée ensemble. Voilà. Donc Léonie, pourquoi je vous parle de Léonie au milieu de la sainteté de sa famille? Parce que Léonie a changé la conception de la sainteté de sa famille. Léonie est née en 1863, c'est la troisième enfant des saints époux Louis et Zélie, et elle a tout de suite été chétive, elle a tout de suite eu des problèmes, et on va voir que ces problèmes ont été crescendo jusqu'à la mort de sa mère, et ça a été la grande croix de sa famille. Donc comment un enfant terrible, comment un enfant un peu différent, qui apporte la croix dans sa famille, enfin il y en avait d'autres, peut constituer la sainteté, et même de sa sœur? C'est ce que je voudrais voir avec vous ce matin. Alors pour commencer sur cette idée de la sainteté, je vais vous lire un extrait de Sainte Thérèse sur la sainteté. Et Sainte Thérèse dit « Pour qu'un sermon sur la Sainte Vierge me plaise et me fasse du bien, il faut que je voie sa vie réelle, pas sa vie supposée. Je suis sûre que sa vie réelle devait être toute simple. Il faudrait la montrer immuable, faire ressentir ses vertus, dire qu'elle vivait de foi comme nous, en donner des preuves par l'Évangile où nous lisons « Ils ne comprirent pas ce qu'elle leur disait ». C'est bien de parler de ses prérogatives, mais il ne faut pas dire que cela. Et si, dans un sermon, on est obligé, du commencement à la fin, de s'exclamer et de faire « Ah, ah, on en a assez », qui sait si quelqu'un n'irait pas, même jusqu'à se sentir alors un certain éloignement pour une créature tellement supérieure, et ne se dirait pas « si c'est cela, autant aller briller comme on pourra dans un petit coin ». Donc vous voyez que Thérèse est sentie elle aussi le danger de se sentir écrasée par la figure des saints. Alors heureusement, on a Léonie qui nous est donnée comme un chemin de sainteté, enfin c'est l'Église qui va proclamer sa sainteté ou pas, mais un chemin de sainteté dans sa fragilité. Je regarde l'heure pour être arrivée à l'heure. Voilà, que je ne prenne pas trop de temps. Donc là, je vais partir de la famille Martin. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de femmes au milieu de vous qui sont mères de famille, d'autres qui ne le sont pas, mais nous venons tous d'une famille. Nous venons tous de parents, et ces parents, quand ils se sont mariés, comme Louis et Zélie, ils sont entrés dans leur relation conjugale avec chacun un héritage psychologique. Et en fait, un saint a un héritage psychologique. Louis, par exemple, il a eu 4 frères et sœurs qu'il voit tous mourir. Il est resté très tôt le seul enfant, ses 4 frères et sœurs sont morts. C'est un homme qui a désiré devenir religieux, qui était assez sensible en fait, on n'insiste pas assez sur cet aspect-là de sa personnalité, et qui garde un besoin vital de temps de solitude, de méditation. Et d'ailleurs, il a un petit pavillon qu'on peut voir encore à Alençon, où il se retirait pour prier. C'est un artiste, puisque il a fait un apprentissage en horlogerie et puis en bijouterie. Et quant à... Et il n'a qu'un seul but dans la vie, évidemment, c'est devenir saint, chez lui. Alors Léonie a dit quelque chose de merveilleux de son père, elle dit « Chez lui, connaître la sainte volonté de Dieu et l'accomplir était une même chose. » C'est quand même un compliment extraordinaire de la part d'une fille pour son père. Zélie, d'autre part, a un grand désir de servir Dieu, puisqu'elle aussi, elle voulait devenir religieuse. Mais elle n'a pas une santé suffisante pour devenir sœur de Saint-Vincent-de-Paul, de la Charité, parce que il faut quand même avoir une bonne santé, et elle ne l'avait pas. Elle avait souvent des migraines, elle était assez chétive, et la supérieure lui dit « Mais non, non, vous n'êtes pas faite pour ça. » Donc, elle consent à devenir épouse, à se marier. Mais pour elle, c'est un peu un renoncement. Et en fait, on va voir que ce renoncement va la mener vers un nouveau chemin de sainteté, un peu comme nous. Parfois, nous renonçons à des choses, nous avons des idées de notre sainteté, de ce qu'on voulait, et le Seigneur ferme une porte pour nous en ouvrir une autre, qui est celle du Seigneur, qui n'est pas la nôtre, et où il y a des croix, ben oui, il y a des croix, mais c'est notre chemin de sainteté. Donc Zélie, elle a un sens du devoir qui la conduit souvent au surmenage, et puis elle a beaucoup souffert de son enfance, d'une éducation très rigoriste. Elle écrit « Mon enfance, ma jeunesse ont été tristes comme un linceul. J'ai beaucoup souffert du cœur. » Elle n'avait jamais de poupée, sa mère ne l'embrassait jamais, et elle était sensible, donc elle a beaucoup souffert de ça. Et on peut se dire qu'en arrivant dans son mariage, elle aurait pu garder ce rigorisme vis-à-vis des enfants. Eh bien non, elle a su épanouir son cœur et devenir chaleureuse avec ses enfants. Et elle a évidemment, elle aussi, une dimension artistique, puisque comme vous le savez, elle dirige une entreprise de dentelle. Enfin, mon but n'est pas de vous raconter la vie de Louis-Élie Martin, mais vraiment de réfléchir à ce que c'est que la sainteté. Donc, ils gardent un grand idéal de sainteté pour chacun de leurs enfants et qu'ils mettent en application. Ils ont une foi très forte, mais aussi un humble accomplissement de leur devoir d'État dans un abandon à la Providence, les enfants, la maison, l'horlogerie, la fabrique de dentelle. Et ils sont aidés dans cette vocation, et là je fais un clin d'œil à nos amis prêtres, nos frères prêtres, par sœur Marie d'Ozité, qui est la grande sœur de Zélie, et qui va beaucoup l'aider et la soutenir. Et très souvent dans notre vie, nous avons besoin de religieuses, de prêtres, d'une présence un peu sur la montagne, un peu, hein. Nous sommes dans la plaine, nous avons les mains dans le cambouis et nous avons besoin d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie à Dieu, nos sœurs religieuses, nos frères prêtres, et qui nous aident à avoir à être moins dans le pétrin du quotidien en fait. Et c'est ce qu'elle va faire, sœur Marie d'Ozité, elle leur transmet une éducation salésienne qui est un optimisme actif. Car en fait, pour développer ses vertus et amender les défauts d'un enfant et ses propres défauts à soi, il faut se connaître, il faut connaître son enfant. Donc, la méthode éducative des parents Martin, c'est une méthode réaliste où on commence par observer l'enfant, voir quelles sont ses qualités et ses défauts naturels, et après tout ce travail. C'est un peu comme vous, en fait. Quelqu'un qui dit « moi j'ai beaucoup de défauts, c'est même pas la peine de songer à la sainteté ». Des défauts apparents. En fait, imaginez quelqu'un qui a plein de défauts, mais qui chaque fois qu'il tombe, se dit « ben voilà, tout le monde m'a encore vu en flagrant délit de colère, tout le monde m'a encore vu en flagrant délit de médisance, par exemple, tout le monde m'a encore vu en flagrant délit de je ne sais pas quoi », eh bien c'est bon pour mon humilité. Au moins, ils savent qui je suis. Et ce que je suis, c'est pas grand-chose. Je grandis en humilité. Et puis aussi, je me relève, je grandis en courage. Donc l'éducation salésienne, c'est ça. C'est ne pas se être écrasé par ses défauts, mais se dire « je travaille d'autres vertus en luttant contre mes défauts ». L'importance du dialogue, je vais passer un peu vite là sur l'éducation de la famille. Enraciner le bien, non pas le plaquer, une bonté, une bienveillance. Zélie offre des cadeaux à ses enfants, ses filles ont des poupées, Louis joue avec ses filles, ce qui est rare à l'époque pour un père de famille. Il dit « je suis beau billon de mes enfants », ça veut dire que je suis un peu gâteux. Et puis, ils ont rencontré la croix. D'abord, ils ont perdu 4 enfants sur 9. Ce qui n'a pas été du tout facile, contrairement à ce qu'on peut penser. On se dit « à l'époque, il y avait une mortalité infantile, les gens ne s'attachaient pas aux enfants, c'est faux ». Zélie dit, après la perte de son dernier enfant, « j'ai tellement pleuré que je n'arrive plus à pleurer, j'ai des cales qui me sont poussées sur le cœur ». Donc Zélie a beaucoup souffert de la mort de ses enfants, surtout de Hélène, qui est morte à l'âge de 5 ans sous ses yeux. Donc ils ont connu des croix, mais ils ont mis en place des principes éducatifs qui se sont avérés très payants avec leurs filles, qui restaient leurs 5 filles, sauf pour Léonie. Et là on peut se dire, ah bah oui, bah donc ça prouve que leur éducation ne marche pas. Mais non, c'est justement le crash test d'une éducation qui fonctionne. Est-ce que ça fonctionne avec tous, même les différents? Parce que Léonie vient bouleverser les plans éducatifs. Elle a un profil à part. Elle manque de mourir à la naissance, en 1863. Elle est née le 3 juin. Elle a un eczéma à l'âge de 19 mois, qui est tellement fort que sa mère demande à sa sœur de faire une neuvaine à la bienheureuse Marguerite Marie, et elle guérit. Et elle guérit pas définitivement, hein, mais elle guérit assez pour pouvoir continuer à vivre et à ne pas hurler jour et nuit, en fait. Hein. Et elle a un retard de développement précoce, à tel point que sa mère écrit « Cette pauvre enfant me donne de l'inquiétude, elle a un caractère indiscipliné et une intelligence peu développée. » Et elle est hyperactive. Sa grande sœur écrit « Elle ne tenait nulle part. Aussitôt qu'on lui laissait un peu de liberté, elle en profitait pour mettre le désordre partout. Ou bien, il lui arrivait quelqu'un qu'accident, on ne pouvait jamais être tranquille sur son compte. » Elle est désobéissante. Donc, c'est vraiment l'enfant difficile à éduquer et on a l'impression que tous les principes éducatifs ne servent à rien. Et puis, cet enfant va connaître beaucoup de traumatismes. Donc, vous voyez le traumatisme de la santé. En septembre 1867, donc quand Léonie a 4 ans, Zélie attend un enfant. Elle vient d'en perdre un. Et Léonie est tellement hyperactive qu'elle s'est fait renvoyer de l'école. Et donc, Zélie essaye de trouver une nouvelle servante. Elle fait une neuvaine et arrive Louise Marais, une jeune fille de 18 ans, qui a l'air très bien, en tout cas très énergique. Et donc, Zélie l'embauche et lui fait confiance. Mais en fait, dès que la mère tourne le dos, elle est très autoritaire avec les enfants, elle les terrorise même. Pauline raconte dans ses souvenirs que quand elle avait le malheur de tacher ses bas, elle les enlevait elle-même et elle les nettoyait dans une flaque ou dans un cours d'eau avant d'arriver à la maison, tellement elle avait peur de se faire crier dessus par la servante ou de se faire disputer, parce qu'évidemment elle criait pas trop fort pour pas se faire repérer par la mère de famille. Donc une servante fourbe, très fourbe même, et je dirais même perverse. Parce que, en fait, vis-à-vis de Léonie, elle va être horrible. Parce que plus le temps va passer, après la mort de Hélène, qui meurt à 5 ans, alors dans l'architecture de la famille, vous avez les deux aînés qui sont nés en 60 et en 61, 1800. Après, il y a Léonie et Hélène, 64-65. Après, il y a deux garçons qui meurent. Et après, il y a Céline qui arrive en 69. Une petite fille qui arrive après Céline qui meurt, et puis Thérèse. Donc vous voyez qu'en fait, il y a les deux grands, les deux petites, et au milieu, Léonie et Hélène. Donc Céline était encore nourrice à ce moment-là. Hélène était vraiment malade souvent. Et sa grande sœur Marie dira même, je pense qu'elle était malade tellement la servante était méchante avec elle. Ça nous interroge, parce qu'on se dit, mais je ne comprends pas, les Élie sont saints. Ils n'ont pas vu que la servante était méchante avec les enfants. Marie dit, en fait, les enfants voulaient toujours à la servante et passer du temps avec elle. Donc, Zélie se disait, bah, puisqu'ils vont, ils ne la craignent pas, ils n'ont pas l'air de la craindre, tout va bien. Mais en fait, elle ne sait pas que quand elle tourne le dos, la servante est horrible. Et elle a une emprise sur Léonie, parce que quand Hélène meurt d'une pneumonie, sous les yeux de Léonie et de Zélie, les deux aînés sont en pension à cette époque-là, c'est un traumatisme pour Léonie, c'est un traumatisme pour Zélie, et la servante, du coup, se venge sur Léonie. Donc elle se met à la battre et elle a une emprise psychologique très forte. Comment on sait cette emprise psychologique? J'ai bien cherché dans les papiers de Léonie, et j'ai trouvé cette phrase qui avait été barrée par ses sœurs parce qu'elles avaient honte de ça. Et Léonie écrivait: il ne faut pas parler de cette cruelle et méchante domestique. Ce qu'elle m'a fait endurer n'est ni plus ni moins diabolique. Ce qu'elle m'a fait endurer n'est ni plus ni moins diabolique. C'est miraculeux qu'il ne me soit rien resté, car je vivais dans une perpétuelle terreur. Les gens du monde ne comprendraient pas cela si vous publiez. Ça ferait du tort à maman que j'aimais à la passion. Et elle ajoute 2 jours plus tard, et là on est 3 mois avant sa mort, « Je pardonne de tout mon cœur à mon bourreau, et je lui sais bon gré d'avoir si bien soigné notre maman chérie dans sa dernière maladie. » Donc vous voyez que Léonie a connu le décès de sa sœur chérie, a connu une santé déficiente, et a été abusée en fait. Hein. Alors jusqu'où a été l'abus? Je ne dis pas qu'il y a forcément des choses sexuelles, mais en tout cas, elle a été sous emprise de cette servante, battue, et surtout terrorisée. Donc elle était dans un état de ce qu'on appelle un peu le syndrome de Stockholm, elle pensait par la servante. Et Zélie ne comprenait pas, disait « Léonie ne m'aime pas, parce que chaque fois que je lui demande quelque chose, elle obéit à la servante et elle ne m'obéit pas. » Et donc, Louise isole Léonie du reste de sa famille en exigeant une servilité totale. Et Zélie, qui cherche à établir une relation de confiance et non pas une relation de violence et non pas une relation de force, ne comprend pas parce qu'elle veut avoir la confiance du cœur de sa fille. Et pourtant, Léonie est celle qui vit le plus avec ses parents. Parce que les deux sœurs vont en pension, ben les deux petites, la mère meurt tôt. Donc celle qui reste le plus avec ses parents, c'est Léonie. Et celle qui, la première, déclare une vocation religieuse, c'est Léonie aussi. C'est elle qui, la première dans sa famille, à l'âge de 10 ans, dit « moi, je veux être religieuse ». C'est très étonnant. Alors quand elle dit ça, vous pensez bien que Zélie dit « à moins d'un miracle, je ne vois pas comment elle peut devenir religieuse ». Enfin, j'y crois quand même, mais avec beaucoup d'espérance. Hein. Et de fait, elle va devenir religieuse. Quelles sont les réponses de Zélie par rapport à ça? La force de l'espérance, elle ne se décourage pas. Plus de prières, plus de nouvelles, plus de confiance. « Je n'ai plus de foi qu'en un miracle pour changer Léonie ». Il est vrai, je ne mérite pas de miracle, mais j'espère contre toute espérance. Plus je la vois difficile, plus je me persuade que le bon Dieu ne me permettra pas qu'elle reste ainsi. Je prierai tant qu'il se laissera fléchir. Malgré tout, quand en décembre 1876, quand Zélie apprend qu'elle a un cancer et qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre, elle est écrasée. Et ce qui l'angoisse le plus, ce n'est pas son cancer. Parce qu'elle se dit, les deux grandes vont réussir à tenir la maison, à continuer à vivre sans moi. Les deux petites montrent les meilleures dispositions. C'est étonnant parce que les deux petites, elles ont 8 ans et 4 ans. Hein. Mais elle pense à Léonie. Cette enfant me donne bien des soucis. Quand mes yeux se portent sur elle, j'éprouve une peine extrême. Elle fait toujours ce que je ne voudrais pas. Et plus elle grandit, plus cela me fait souffrir. Alors, il y a un miracle. C'est qu'en mars 1877, Marie, qui est revenue de pension, ose dire à sa mère, en ayant épié la servante, tout ce qu'elle a remarqué. Et comme avant, elle ne pouvait pas parler parce qu'elle était un enfant, et qu'un enfant ne critique pas les domestiques dans les bonnes familles, on ne considère pas que les enfants de la famille sont là pour donner leur avis sur les domestiques, ce qui fait partie de l'éducation. Mais là, elle se sent assez âgée, elle a 16 ans pour le dire, et elle dit tout à sa mère, qui comprend d'un seul coup tout, se désole évidemment, veut renvoyer la servante, mais comme la servante est perverse, elle l'embrouille pour lui dire « Mais écoutez, vous êtes malade, vous allez bientôt mourir. Si je pars, vous ne trouverez pas d'autres domestiques. Je m'occupe très bien des autres, je ne m'approcherai plus de Léonie. » Et sans doute que M. Martin se dit « Ben oui, c'est vrai, on a besoin d'une servante. » Et donc, on lui interdit d'approcher de Léonie, mais elle reste là jusqu'au bout. Mais pour vous donner un peu un indice qui, moi, me fait réfléchir, c'est que quand Léonie est dans la pièce avec sa mère, qu'elle l'embrasse, et que la servante rentre, elle n'ose plus embrasser la servante, sa mère. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me parle, me dit, il y a un truc qui ne va pas. Donc, en août, Zélie comprend qu'elle est mourante, et sa fille écrit, « Maman est désolée comme jamais je ne l'ai vue, au point qu'elle a pleuré toute la journée de samedi à cause de Léonie. Elle se demande ce qu'elle deviendra, et croit qu'il faudra la mettre en pension. » Pour qu'elle apprenne à vivre en société, elle me dit d'un ton si angoissé que je ne l'oublierai jamais. Qui s'occupera de cette pauvre enfant quand je ne serai plus là? Qui pourra lui prodiguer le dévouement d'une mère? Et je lui ai répondu, oh maman, ce sera moi. Alors, Marie écrit aussi sur sa mère, on peut dire qu'elle a creusé un sillon, son sillon de la courage, dans les larmes, et qu'elle n'a pas vu les épis d'or dont il devait se couvrir un jour. Et donc, il y a cette idée de déploiement de la vocation de Madame Martin, de sa vocation, de sa sainteté dans la croix, dans les larmes. Et notre vocation, elle est là aussi. C'est vrai qu'on doit avoir la joie dans notre cœur, mais c'est une joie qui parfois est surnaturelle et que parfois on est écrasé par la croix. Mais il faut avoir confiance en Dieu, espérer contre toute espérance. Et c'est ce qu'a fait Zélie. Elle a eu une fille sainte et peut-être une autre. Ça va, je suis dans les temps, j'ai essayé de... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, vous savez que Louis Martin, avec ses cinq filles, ont déménagé ensuite à Lisieux, au Buissonnet, et que Louis s'est occupé de ses filles. Léonie est partie un peu en pension, auprès de bénédictines, comme les bénédictines que nous avons ici. Et auprès des bénédictines de Lisieux, Léonie a restauré son cœur, en fait, parce que les bénédictines l'ont vraiment entourée d'une affection maternelle. Et elle a trouvé dans leur cœur des consolations, je dirais maternelles, qui lui ont fait beaucoup de bien, qui l'ont remis sur le droit chemin, qui lui ont donné envie de progresser. Elle était encouragée, elle était aimée. Et ce que j'ai trouvé merveilleux, et là c'est vraiment un hommage que je rends à ces bénédictines, c'est qu'elle avait une religieuse qui s'occupait particulièrement d'elle, qui s'appelait Sœur François de Paul. Et cette religieuse, des années plus tard, a témoigné au procès de Thérèse, et on l'a interrogée sur la famille Martin, et elle disait « J'étais assez proche de Léonie, je me souviens d'elle, de la délicatesse de ses sentiments dans les compositions de français. » Alors ça, c'est merveilleux, parce que Léonie était une cancre. Elle disait elle-même que quand on lui donnait une opération de mathématiques à faire, elle mettait des chiffres au hasard. Au pif, elle disait « Ça peut toujours marcher. » Elle a eu un petit dictionnaire sur elle jusqu'à la fin de sa vie. J'ai vu le petit dictionnaire, parce qu'elle faisait des fautes d'orthographe. Ses sœurs lui disaient, tu sais, quand tu réponds, tu demandes à tes supérieurs de te relire quand même, parce que là, vraiment, c'est un peu la cata. Hein. Et voilà. Et en fait, elle a progressé chez les bénédictines, au point où elle a eu la croix d'honneur. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça prouve qu'elle a progressé et qu'elle est devenue enfant de Marie. Les personnes qui devenaient les filles, qui devenaient enfants de Marie, c'était les plus pieuses et les plus sages. Donc Léonie est devenue sage parce qu'elle s'est sentie aimée par des religieuses. Et ça, c'est vraiment merveilleux parce que l'Église déploie sa maternité par toutes sortes de personnes envers nous. Ça peut être évidemment nos parents, ça peut être aussi des oncles, des tantes, des personnes qui n'ont pas eu d'enfants et qui vont déployer leur tendresse sur nous. Et ça peut être aussi évidemment des religieuses, des religieux, des prêtres qui nous témoignent de cette chaste miséricorde, de cet amour sur nous. Alors Léonie, quand elle sort de chez les bénédictines, elle pense évidemment à sa vocation. Et elle se dit, comme nous, nous pouvons peut-être nous dire, je veux devenir sainte et je veux le top. Alors elle se met à regarder tous les ordres religieux et elle regarde quel est celui qui est le plus dur. Et elle trouve les Clarisses. Les Clarisses, on marchait pieds nus toute la journée, il n'y avait évidemment pas de chauffage, un seul repas par jour, on ne parle pas. Pas de récréation non plus. Hein. Donc la supérieure des Clarisses de Paris à cette époque disait « Moi je connais des religieuses, elles ne savent même plus parler. » Pour vous dire comme c'était austère. Hein. On s'habillait pareil le jour, la nuit. Et la nuit, 2 heures de prière, de minuit à 2 heures. Il paraît que c'est ce qu'il y avait de plus dur. Bon. Et Léonie se dit « C'est ça qu'il me faut pour moi. » On y va. Et elle avait des liens avec les Clarisses, puisque c'était les Clarisses d'Alençon. Et puis, c'était la même supérieure que sa mère avait connue. Ça, c'est important de le dire. D'ailleurs, je dois vous donner une petite anecdote à ce sujet. C'est que quand j'ai cherché des documents sur les Clarisses, on est allé chez les Clarisses d'Alençon, qui malheureusement ont fermé aujourd'hui. J'ai fouillé dans toutes leurs archives. Et moi, je voulais savoir qui était la mère supérieure qui avait accueilli Léonie à cette époque. Aucun document chez les Clarisses. J'étais un peu triste parce que je me dis, Seigneur, quand même, ça serait bien que je sache un peu qui... Et je me mets à chercher sur Internet. Et sur le site de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, je trouve une notice de Clarisse. C'était la mère supérieure de Léonie à cette époque. Une, qui était numérisée. Toutes les autres avaient disparu, il n'y avait que celle-là. Ah, c'était dingue. Et donc j'ai pu savoir que c'était la même de 1869 à 1887. Donc l'essai de Léonie. Et c'était extraordinaire quand même. Alors à l'époque, on recevait les postulantes, même si elles n'avaient pas la santé, en se disant, si vraiment elle a la vocation, le Seigneur va lui donner la santé. Et c'est ce qui arrivait à certaines sœurs d'ailleurs. Hein. Certaines sœurs, la fameuse supérieure, justement, j'ai lu dans sa biographie, qu'elle était rentrée chez les Clarisses en se disant, je ne sais même pas si je vais pouvoir suivre la règle jusqu'au bout, parce qu'il fallait quand même une certaine santé. Et le Seigneur lui a donné la santé. J'ai une anecdote très drôle d'ailleurs, c'est qu'une des compagnes de Léonie plus tard, quand elle devient religieuse, tout le monde se dit comment elle va faire. Elle chante si faux. Alors elle, pendant sa prosternation de ses vœux, elle dit Seigneur, faites que je chante juste. Et dans sa biographie, il est dit le Seigneur l'a exaucée. Elle pouvait chanter juste dans le cœur et quand elle dirigeait les chants, mais sinon elle chantait très faux, mais juste dans le cœur. Donc, mais Léonie, elle n'a pas eu cette grâce-là. Elle a eu la grâce de voir qu'elle s'est explosée en vol, là. Donc, elle est restée 2 mois, de octobre à décembre. Elle est rentrée inopinément. Je ne peux pas vous raconter tout, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés se promener à Alençon parce que Pauline était rentrée au Carmel, la deuxième. Marie voulait la rejoindre. Et le papa dit, ben, très bien, on va aller se promener à Alençon sur la tombe de votre maman pour dire au revoir à nos amis d'Alençon. Et après, Marie... L'aînée, tu rentreras au Carmel. Donc, ils vont tous en famille. Et Léonie dit, ben, j'aimerais bien aller faire un parloir avec les Clarisses. Très bien, il la laisse. Et puis, quand ils reviennent, elle n'est pas là. Alors, Louis Martin va voir la supérieure. Il dit, mais elle est où, Léonie? Elle est derrière la grille. Elle vous attend. Quoi? Et on la voit en tenue de Clarisse. Donc, elle avait eu le temps de rentrer, de se faire couper les cheveux en rond, de faire la petite cérémonie en 1 heure, et de attendre derrière la grille. Et elle les regarde droit dans les yeux avec ses yeux bleus. Et elle dit, regardez bien, messieurs, vous ne les verrez plus jamais de votre vie. Parce qu'après, les Clarisses, c'était le voile baissé, hein, même avec la famille. Donc eux, c'est vraiment, ça leur tord l'estomac, ils disent, qu'est-ce qu'elle fait là? Louis Martin apaise les choses, Marie est en colère, Thérèse, vous lirez dans les magnifiques autobiographies qui racontent cette histoire abracadabrante. Et Léonie se dit, mais moi, ça y est, je vais devenir sainte. Et elle s'explose. Elle sort de là, bourrée d'eczéma, avec des ganglions sous les bras. Elle dit « J'étais déprimée à tous égards en sortant de chez les Clarisses. » Oui, c'est sûr, hein, elle était vraiment dans un état second. Et les Clarisses appellent son père qui, tout content, vient la récupérer. Elle est contente de la voir. Hein. Et s'en souviendront après d'ailleurs. Des années plus tard, elles s'en souviendront que Louis Martin était tout joyeux en venant chercher sa fille. Tu m'étonnes. Et donc, elle rentre à la maison, déprimée. Et c'est là qu'intervient la conversion de Thérèse d'ailleurs. À ce moment-là,
Thérèse, qui est écrasée par son hypersensibilité suite à la mort de sa mère, a une grâce qui est la conversion de Noël. J'ai pas le temps de vous raconter cette grâce, mais elle était hypersensible, elle devient très forte. Ouais, je vous raconte quand même une partie, c'est que on ne sait pas. C'est qu'en fait, quand Thérèse raconte ça, elle raconte qu'elle va à la messe de Noël avec son père et sa sœur Céline, elle parle pas de Léonie, et elle dit, je rentre, je monte l'escalier avec Céline, et papa voit mes souliers sur la cheminée, et il se dit, oh là là, il faut encore la traiter comme une enfant, alors qu'elle a 13 ans, comme un bébé, en disant, mais regarde, il y a des cadeaux, c'est super. Et il dit ça à voix haute, et Thérèse l'entend, et elle est blessée. Et pourquoi Louis a fait cette remarque-là? Louis a fait cette remarque parce qu'ils sont entrés avec Léonie, que Léonie est montée dans sa chambre en pleurant, et elle s'est enfermée dans sa chambre comme elle avait l'habitude. Donc elle était contrariée, et donc une contrariété a engendré un petit moment d'humeur, ça a un peu pourri l'ambiance, il faut dire les choses. Hein. Et Thérèse se dit, moi aussi je vais aller pleurer dans ma chambre. Et elle s'arrête, elle se retourne, et elle dit non, je décide d'affronter cette peine. Elle descend. Elle ouvre son soulier, regarde les cadeaux qu'elle avait dedans, elle rit, elle fait des plaisanteries et elle console son père. Et elle a une grâce de force. Elle commence sa course de géant qui, 9 ans plus tard, l'amène à la sainteté. Elle meurt 9 ans plus tard. Hein? Donc, Thérèse a une grâce de force. Nous, on aimerait bien avoir cette grâce de force. Hein? Je vous le dis, moi, j'ai attendu, je me suis dit, moi, j'aimerais bien avoir une grâce de force, commencer une course de géant et hop, je vais au ciel, c'est super! Et en fait, parfois ça n'arrive pas, comme Léonie. Léonie, elle, ce jour-là, elle était dans sa chambre. Alors je me suis dit, mais est-ce qu'elle vraiment elle y était? Donc je me suis mis à regarder tous ses courriers, et j'ai trouvé une lettre de sa sœur, 50 ans plus tard, qui lui écrivait, au fait Léonie, est-ce que tu étais là le jour de la conversion de Noël de Thérèse? 50 ans plus tard, vous voyez à quel point on s'en fichait un peu d'elle quand même, hein, parfois. Hein. C'était moins important, quoi, disons. Et elle répond, oui, j'étais là, je sortais de chez les Clarisses, j'étais déprimée à tous égards, je ne m'en souviens pas très bien de ce qui s'est passé. Oui, évidemment, elle était dans sa chambre. Donc c'est intéressant pour nous de savoir que quelqu'un qui a commencé un chemin de sainteté l'a commencé dans cette fragilité, dans cet écrasement, dans sa faiblesse. Et pourtant, elle a continué à cheminer. Donc Léonie, évidemment, était isolée vis-à-vis de ses sœurs, parce qu'elle avait 4 sœurs qui étaient toutes les 4 brillantes, qui sont devenues religieuses, et elle disait, j'ai beaucoup souffert de mon infériorité, j'ai senti l'isolement du cœur, de tout. Elle est comparée toujours à ses sœurs brillantes, il y a ces deux grandes sœurs qui sont ensemble au Carmel, qui s'entendent très bien, qui sont comme jumelles, ces deux petites sœurs, Céline et Thérèse, qui se disent tout, et puis quand on fait des confidences, on le dit aux grandes sœurs, mais elle n'est pas dans les confidences. Par exemple, elle ne sait pas que sa sœur Thérèse a la vocation, elle ne sait pas que Thérèse a été guérie par un sourire de la Sainte Vierge, elle ne sait pas tout ça, elle est un peu isolée. Et puis, on dit des choses gentilles sur elle, mais il y a des non-dits. Et donc, en entrant au Carmel, à l'âge de 15 ans, Thérèse, qui a un regard plus clairvoyant sur sa famille, commence à se soucier vraiment de Léonie. Et elle commence une amitié spirituelle. C'est là où je veux en venir, c'est que jusque-là, Léonie, c'était la faible de la famille, la fragile, celle qui avait des problèmes, un peu celle qui avait des problèmes psychologiques. Hein. Vous voyez, dans nos familles, on a tous quelqu'un, tous, enfin moi je suis frappée, qu'on a tous des personnes qui ont des problèmes psychiques graves. Et donc, est-ce que ces problèmes sont un obstacle à la sainteté? Est-ce que nos fragilités sont un obstacle à la sainteté? Parce qu'en fait, l'idée qu'on a la sainteté, c'est qu'on est des super-héros. On se présente en super-héros à Dieu, et Dieu fait de nous des super-héros. Et en fait, pas du tout, c'est pas comme ça que ça fonctionne la sainteté. Et Thérèse, quand elle rentre au Carmel, elle est un peu une super-héroïne, parce qu'elle est devenue forte, elle a 15 ans, et sa supérieure lui dit, mais c'est incroyable, elle a 15 ans, et elle se comporte comme une religieuse qui a 20 ans d'expérience et qui fait tout bien. Son confesseur, le confesseur du Carmel, l'abbé Youf, dit de Thérèse, elle est comme ses cierges bénis. On voit qu'elle brûle, mais elle dit rien. Donc elle se promenait avec une présence, vous voyez. Ça, c'est un compliment. Léonie, elle est hypersensible. Donc elle apprend quelque chose, elle pleure pendant 3 jours. Elle apprend quelque chose de merveilleux, elle rit pendant 3 jours. Et toute sa vie, elle va rester hypersensible, en fait. Elle va garder ce caractère qui est handicapant, mais qui à la fois est son terreau de sainteté. Et quand Thérèse devient maîtresse et novice, alors je continue un peu l'histoire de Léonie, je fais une petite parenthèse. Donc Léonie, elle est sortie de chez les Clarisses en décembre 1886. Elle réfléchit et se dit « Ok, je ne suis pas faite pour les Clarisses, il faut que je trouve un ordre religieux qui soit adapté à mes forces mesurées. » Et cet ordre religieux, c'est la Visitation qui a été créée au XVIIe siècle, en 1610, par Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, pour les femmes qui étaient soit âgées, soit veuves, soit en ayant une santé déficiente, ou soit qui n'avaient pas envie de faire des austérités comme les Clarisses, et qui voulaient quand même se donner à Dieu. Donc c'est une nouvelle voie de sainteté pour les religieuses. Et il reçoit dans son monastère des religieuses, certaines ont la santé, d'autres pas, et on dira de lui, c'est pas un monastère que vous avez, c'est un hôpital. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sœurs qui avaient une santé déficiente, mais c'était son choix. Alors, quelle était la voie de sainteté à la Visitation? C'est une voie de sainteté qu'il a commencé à développer par l'introduction à la vie dévote, qui était destinée aux femmes dans le monde, mais qu'il applique à la Visitation et qui est une voie de sainteté, je dirais, réaliste. C'est-à-dire, vous allez fleurir là où vous avez été planté. Vous allez fleurir avec votre santé, avec votre psychisme, avec ce que vous êtes, et avec peut-être les choix que vous n'avez pas faits dans vos vies. Peut-être. Peut-être que vous avez voulu vous marier et avoir 10 enfants et que ben, vous êtes resté célibataire. Ben, le Seigneur vient vous chercher là où vous êtes. Peut-être qu'au contraire, vous avez voulu être religieuse, mais vous êtes mariée en disant « bon, ben voilà, c'est pas pour moi ». Ben mais non, mais là, vous êtes aussi. Et donc, Thérèse va évoluer grâce à Léonie, parce qu'elle, elle est forte, et elle s'aperçoit que Léonie n'y arrive pas. Elle commence un premier essai, Léonie, en juillet 1887 à la Visitation, et en janvier 88, elle en ressort. Et on écrit d'elle « cette sœur n'est pas adaptée à notre genre de vie ». Même la Visitation, elle n'y arrive pas. Elle est trop fragile. C'est difficile pour elle quand même, hein, parce que son idéal de sainteté, c'était d'être religieuse. Donc même l'ordre religieux le moins exigeant au niveau de la santé, on ne l'apprend pas. Donc qu'est-ce qu'elle va devenir? Thérèse a pitié d'elle. Alors au début, elle lui parle un vocabulaire de volonté, en disant « Allez Léonie, il faut se donner, il faut tout donner, allez, encore un effort, encore un effort !» Et elle fait des efforts. Et Léonie essaie d'y aller, le fait, et fait de son mieux. Et dans sa famille, on dit de Léonie « C'est une pauvre nature. » Elle manque de volonté. Voilà. Et en 90, Thérèse fait ses vœux, et quand elle est prosternée par terre, il se trouve que son père a eu de gros problèmes psychiatriques à cause d'une artériosclérose cérébrale. C'est le diagnostic qui a été fait après. Et donc, il est dans un asile psychiatrique à Caen. Et sa supérieure de Thérèse lui dit « Offrez vos vœux pour votre père, pour que votre père guérisse. » Et Thérèse, qui est prosternée sous le drap noir, qui symbolise le passage d'une vie à l'autre, on dit qu'on peut tout demander à ce moment-là à Dieu, on sera exaucé. Elle dit « Seigneur, si telle est votre volonté, guérissez papa, mais pour Léonie, faites qu'elle retourne à la Visitation. Et si elle n'a pas la vocation à la Visitation, donnez-la lui. » Elle est autoritaire avec le bon Dieu. Hein. Et donc, quand 3 ans plus tard, en 1893, son père est sorti de l'asile psychiatrique, il est retourné vivre avec Céline et Léonie, c'est les deux filles qui restent. Léonie dit « Je rentre à la Visitation pour un deuxième essai. » Alors tout le monde dit « Mais attends que ton père meure, tu vas pas laisser Céline toute seule. » »« Non, non, je rentre à la Visitation. » Tout le monde est un peu étonné, et Thérèse dit ben « Moi, je vois là le fruit de mes prières, elle le pense, et elle lui dit « Moi, je l'encourage. » Donc elle rentre à la Visitation une deuxième fois, en 93. Et là, elle tombe sur des supérieurs qui n'ont pas compris l'esprit de la règle de Saint François de Sales. Hein. Faut voir ça, hein. Il y a aussi des abus en religion, en fait. Hein. Dans le monde religieux, on n'a pas toujours les supérieurs qu'il faut. Thérèse elle-même n'avait pas une supérieure idéale. Et là, c'est des supérieurs qui n'ont pas compris la douceur et l'adaptabilité de la règle à chacun de la Visitation. Donc, elle demande à Léonie d'être parfaite du jour au lendemain. Et Léonie finit en burn-out. Et pendant ces 2 ans de vie religieuse, Thérèse lui répète en boucle « Oui, il faut quand même que que tu offres des petits sacrifices, il faut que tu aies confiance dans tes supérieures, elles sont bonnes, elles soulignent deux fois, faut pas que tu partes dans une autre visitation, reste où tu es. En fait, Thérèse se plante. Sainte Thérèse de Lisieux se plante avec sa sœur. Lui dit, c'est la volonté, continue à être volontaire. Toute sa famille lui dit ça. La prieure du Carmel lui dit, allons, ma bonne Léonie, donnons-nous entièrement. Et Léonie se donne tellement qu'elle finit en burn-out. Elle sort en juillet 1893 de la visitation de Caen dans un état encore pire de chez les Clarisses. Et Thérèse écrit, nous étions à l'agonie. Pour Thérèse, c'est un échec de sa prière, parce qu'elle offre ses voeux quand même pour sa sœur. Elle ne comprend pas. Encore une fois, vous voyez, c'est un peu comme Zélie. Elle déploie sa vocation. Quand on ferme une porte, on en ouvre une autre. Que veut dire le Seigneur à Thérèse par là? Il veut lui dire, il n'y a pas que la volonté. Il y a peut-être une autre voie. Peut-être qu'il y a une petite voie, Thérèse. Peut-être qu'il y a une voie autre que celle de la force. Peut-être qu'il y a une voie pour les faibles. Et d'ailleurs, Thérèse commence à écrire son manuscrit autobiographique en juillet 1895, à l'époque où Léonie sortait. Et qu'est-ce qu'elle écrit? Je m'étonnais encore, en lisant la vie des saints, de voir notre Seigneur caresser du berceau à la tombe certaines âmes privilégiées, sans laisser sur leur passage aucun obstacle qui les empêchât de se lever vers lui, ne permettant jamais au péché de ternir l'éclat immaculé de leur robe baptismale. Jésus a daigné m'instruire de ce mystère. Il a mis devant mes yeux le livre de la nature, et j'ai compris que toutes les fleurs créées par lui sont belles, que l'éclat de la rose et la blancheur du lys n'enlève pas le parfum de la petite violette, qui est le symbole des visitandines. N'ôte rien à la simplicité ravissante de la pâquerette, qui est le symbole qu'elle s'est choisi pour elle-même. J'ai compris que si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure printanière, les champs ne seraient plus émaillés de fleurettes. Ainsi en est-il dans le monde des âmes, ce jardin vivant du Seigneur. Il a trouvé bon de créer les grands saints qui peuvent se comparer aux lys et aux roses, mais il en a créé des plus petits, lesquels doivent se contenter d'être des pâquerettes ou de saintes violettes, destinées à réjouir ses regards divins lorsqu'il les abaisse à ses pieds. Plus les fleurs sont heureuses de faire sa volonté, plus elles sont parfaites. J'ai compris autre chose. J'ai compris que l'amour du Seigneur se révèle aussi bien dans l'âme la plus simple, qui ne résiste pas à ses grâces, que dans l'âme la plus sublime. Le propre de l'amour étant de s'abaisser. Si toutes les âmes ressemblaient à celles des saints docteurs, il semble que le bon Dieu ne descendrait point assez bas en venant jusqu'à elle. Et Thérèse écrit, ô Jésus, que ne puis-je dire à toutes les petites âmes? Ta condescendance, tu descends, ineffable. Je sens que si par impossible tu en trouvais une plus faible que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, pourvu qu'elle s'abandonne avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. C'est là que Léonie répond, « Mon Jésus, la voilà cette toute petite âme. Vous ne pouvez pas en trouver une plus faible, plus misérable que la mienne. » Alors Thérèse meurt en septembre 1897, terrassée par la tuberculose, écrasée aussi par sa propre faiblesse. Parce que jusque-là, il lui semblait que tout était facile, que le ciel était à portée de main, que sa vie religieuse, elle y arrivait quand même, hein. Et puis du jour au lendemain, elle est rentrée dans une nuit obscure et elle s'est aperçue que ce fameux ciel qui lui semblait être à portée de main était devenu quelque chose d'impossible pour elle, même n'existait pas. Et sa santé était tellement délabrée qu'elle est rentrée dans une agonie, une souffrance extrême. Thérèse a vécu des moments horribles, hein, au niveau de la souffrance. Elle disait à sa sœur, ne mettez pas des médicaments sur ma table de chevet. Elle disait que les grands malades pouvaient avoir des tentations de suicide. Vous voyez? Donc Thérèse a été écrasée par sa faiblesse à ce moment-là. Et pourtant, elle a espéré contre toute espérance, elle aussi. Et quand elle est morte, ses manuscrits ont été publiés. Et en octobre 1898, Léonie les a lus et elle a commencé par lire ce que je viens vous lire. Elle a compris. Elle a compris que c'était plus la volonté telle qu'on l'imaginait qui était importante, mais le fait de tomber, de se relever, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez tomber si vous grandissez en humilité, si vous grandissez en confiance avec Dieu, si vous grandissez en courage, vous n'êtes pas parfaite, ben, c'est pas un scoop en fait. Hein. Le péché, c'est pas un scoop. Hein. Ni pour moi, ni pour vous, ni pour personne. Donc, quand Léonie a lu ça, elle s'est dit, je veux retourner à la visitation. Et il s'est passé un signe pour elle, parce que le 3 juin 1897, Thérèse était encore vivante, et Thérèse lui envoie une petite carte postale où elle lui dit, un jour nous suivrons toutes les deux l'époux. Et pour Léonie, c'est le signe comme quoi il fallait qu'elle revienne à la visitation. Et il se trouve que ce jour même était élue à la visitation de nouvelles supérieures qui, elles, avaient tout à fait compris l'esprit de la visitation et ont appliqué vraiment toute cette souplesse de saint François de Sales. Donc Léonie l'ayant appris, elle a refrappé à la porte de la visitation en disant je veux revenir pour la troisième fois. Et les supérieurs, qui avaient très bien compris la situation, ont dit oui. Ce qui fait qu'en janvier 1899, Léonie entre pour la troisième fois à la visitation. Et elle dit « Je ne sortirai d'ici que dans un cercueil ». Et c'est vrai, bon, alors elle est sortie deux fois pour témoigner au procès de béatification de sa sœur, de canonisation, mais c'est vrai qu'elle est restée dans ce monastère jusqu'à la fin de sa vie. Et elle est morte en 1941, à l'âge de 78 ans, le 17 juin, dans la nuit du 16 au 17. Et elle a cheminé longuement. Alors je vous parlerai plus en détail cet après-midi de son cheminement, parce que je ne peux pas tout aborder en une heure. Mais je voulais vraiment vous dire de la part de Thérèse, de la part de Léonie, et finalement de la part du Saint-Curé d'Ars, parce que j'ai remarqué que dans sa vie, à un moment, il a demandé au Seigneur de lui montrer toutes ses faiblesses. Et il a été tellement écrasé par ses défauts, ses faiblesses, ses péchés, que lui aussi a traversé une phase de découragement extrême. Nous sommes faibles. C'est pour ça que Dieu nous aime. Donc pourquoi Léonie nous est-elle si proche ? Ben parce qu'elle est accessible, parce que toute sa vie, elle a cherché à faire le petit pas. C'est un ascenseur qui ne tombe pas en panne, les bras du Seigneur, en fait. Hein. C'est que l'escalier de la perfection, on aimerait le grimper 4 à 4 et arriver en haut. Et Thérèse dit, moi je commence par la première marche et parfois je tombe sur la première marche. Et je me relève et je reviens sur la première marche. Et peut-être que toute notre vie, nous allons juste monter sur cette première marche, mais nous allons nous relever et le Seigneur voit le fond de nos cœurs. Il voit notre amour, il ne voit pas nos actes. Est-ce que le Seigneur a besoin qu'on fasse des choses extraordinaires ? Non, il a besoin de notre amour. Il n'a pas besoin d'actions éclatantes, en fait. Alors, aux antipodes de ces saints qui, dès les premiers instants de leur vie, montrent une perfection en tout, Léonie a une enfance chaotique. Elle a été différente, fragile en tout, abîmée par les maltraitances d'une servante. Elle a été très aimée par ses parents, malgré le fait qu'il n'ait pas tout vu, qui ont tâtonné pour déployer en elle cette éducation qui produira malgré tout, même en elle, les fruits éclatants. Adolescente au cœur d'or, parce qu'elle a toujours eu un cœur d'or, et au caractère fantasque, elle a toujours été très amoureuse de Jésus. C'est vraiment le désir de sa vie de se donner à Jésus. Et finalement, le secret de sa vie est là, ce désir d'aimer Jésus. Et Thérèse nous apprend que la petite voie n'est pas une ascension vers la montagne de la perfection, mais une descente dans la vallée de l'humilité. Car Jésus ne nous attend pas dans les hauteurs, et il nous attend là où nous sommes. Il descend jusqu'à l'intime de notre être pour habiter et transfigurer nos fragilités. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait rien à faire, mais ça veut dire que nous ne nous décourageons pas de continuer à marcher. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode de la corbeille de tissu qui est présentée par Léonie à Thérèse et Céline, où elle leur dit, regardez mes petites sœurs, je joue plus à la poupée, il y a des poupées, puis des chiffons, des habits de poupée, prenez-les. Alors Céline regarde, elle prend une jolie robe, puis restait, en fait c'était une vieille corbeille avec des vieux chiffons, hein, mais Thérèse un peu transfigure ça gentiment. Et Thérèse regarde et dit, mais moi j'ai choisi tout. Et elle dira, ce petit trait de mon enfance deviendra le résumé de ma vie. Plus Plus tard, lorsque la perfection m'est apparue, j'ai compris que pour devenir une sainte, il fallait beaucoup souffrir, rechercher toujours le plus parfait et s'oublier soi-même. J'ai compris qu'il y avait bien des degrés dans la perfection et que chaque âme était libre de répondre aux avances du Seigneur, de faire peu ou beaucoup pour lui, entre un mot, de choisir, entre les sacrifices qu'il me demande. Alors, comme au jour de ma petite enfance, je me suis écriée « Mon Dieu, je choisis tout, je ne veux pas être une sainte à moitié ». Ça ne me fait pas peur de souffrir pour vous, je ne crains qu'une chose, c'est de garder ma volonté. Prenez-la, je choisis tout ce que vous voulez. » Alors c'est amusant parce que Léonie a repris cette phrase à la fin de sa vie. Et elle a dit « Soyons heureuses de vivre, donnons à notre bien-aimé notre vieillesse, nos impuissances, toutes nos misères, puisque notre bien-aimé choisit tout. » Alors seulement nous pourrons le consommer, le consoler, le dédommager. Mon seul bonheur, c'est de t'aimer. Léonie renverse la perspective, c'est Dieu qui choisit tout en nous. Parce que c'est lui qui vient mendier nos corbeilles usagées. Il choisit tout parce qu'il a tout porté et qu'il veut tout guérir. Alors ayons confiance et commençons notre journée avec cette confiance que Dieu nous écoute, nous voit tels que nous sommes. Amen.